Bon, moi, je vais essayer de vous raconter donc aussi notre histoire personnelle, sans essayer de trop me mettre en avant, à mesure où de toute façon, c'est l'histoire plus de, c'est une histoire collective d'un groupe d'enseignants au lycée Doisneau à Vaux-en-Velin, donc pas loin d'ici. Et c'est, je pense, c'est une histoire collective qui se déroule sur une dizaine d'années. C'est un peu l'histoire, le côté collectif de cette histoire qui mérite d'être raconté. J'en suis que le porte-parole. Et peut-être la deuxième élément important là-dessus, un peu par effet de contraste avec tout ce qui a été dit, c'est que c'est une histoire assez institutionnelle. Je reviendrai là-dessus à la fin. C'est-à-dire que les interactions avec des pilotes, des porteurs de projets, des coordinateurs, etc., il y en a eu très peu, sinon aucun. On verra si ça fait un élément de discussion intéressant ou pas. Alors, c'est une histoire qui commence, donc, je disais, il y a une dizaine d'années, au sein de l'équipe de physique du lycée Doisneau, qui commence par un constat d'échec. On était trois enseignants, très impliqués dans notre travail, avec la ferme envie de faire réussir nos élèves, notamment parce que c'était des élèves de milieu populaire. On échangeait beaucoup entre nous, on savait tenir correctement nos classes, on portait un regard bienveillant sur les élèves. Bref, on était, je pense, des bons profs, entre guillemets, tout ce qu'il y a de très banal et de très répandu, je pense, dans l'éducation nationale. Peut-être quelque chose qui nous caractérisait, c'est que le courant passait bien entre nous, on s'entendait bien. On forme une équipe en sens où on était très camarades. Et on avait une envie, on partageait une envie de recherche sur notre métier, sur nos pratiques professionnelles ensemble. Et pendant 10 ans, chaque année, je dirais, on a refait nos cours, échangé nos docs, nos trucs, discuté de nos progressions, etc., etc. On allait chercher dans la littérature pédagogique, les cahiers pédagogiques, tel ou tel livre qu'on avait lu. On a frayé un peu avec la didactique des sciences. On collaborait avec le groupe Sésame, enfin ce qui est devenu le groupe Sésame depuis, de recherche action didactique de la physique. On a lancé des projets, on a participé à des stages. Bref, on était plutôt dynamique. Pour quel résultat? Après une dizaine d'années d'efforts comme ça, enfin un peu moins de 10 ans, on était quand même assez unanime. On avait testé beaucoup de choses, on avait déployé beaucoup d'énergie, mais pour des résultats qu'on jugeait extrêmement décevants, insuffisants. Au final, on avait fait faire bien peu de progrès à nos élèves. Ceux qui devaient réussir, réussissaient. Ceux qui devaient échouer, échouaient. Éventuellement, on permettait à certains de sauver leur peau. Une année de plus, ou 2 années de plus, mais sans aucune garantie pour la suite de leur parcours. Et au résumé, au final, on était assez d'accord sur le constat, on faisait essentiellement du tri social, c'est-à-dire qu'on se faisait enregistrer des déterminismes pas complètement certains, mais quand même des pronostics assez forts en fonction des origines sociales des élèves. Alors on avait une bonne relation pédagogique avec nos élèves, on s'entendait très bien avec eux, mais ça jouait à la marge sur le cœur des apprentissages et des progrès qu'on pouvait leur faire faire. Alors je me souviens très bien d'une phrase d'un de mes élèves qui m'a marqué et que je garde et que je cite énormément depuis. Donc c'est un élève en fin d'année qui venait nous voir au moment des adieux, des goûters de fin d'année et tout ça, qui disait Monsieur Arnaud, vraiment merci, vous vous démenez énormément pour nous, on le sent, on le sait, on vous aime bien, vraiment, franchement, mais la physique c'est pas pour moi, je suis prof de physique. Donc malgré tous nos efforts, en gros on n'arrivait pas à dépasser une dichotomie, un dilemme entre le fait de faire des séances, je dirais un peu ludique, attrayante, dans lesquelles les élèves acceptent de s'engager, mais avec pas trop d'exigences, parce que sinon on décourage et on les perd, ou des séances qui sont exigeantes en termes de contenu d'apprentissage, mais qui sont forcément rébarbatives, difficiles pour la grande majorité des élèves. En gros, pendant des années, on s'est affronté à ce dilemme. Est-ce que c'est un dilemme ou est-ce que c'est un faux dilemme? Est-ce qu'il y a moyen de dépasser ça? En gros, on débute l'année là-dessus, on pose un voile pudique sur les enjeux, la difficulté scolaire, et puis au troisième trimestre, tout ça se déchire quand il s'agit de préparer ceux qui vont aller en S, il faut enfin faire des choses sérieuses. Et puis à ce moment-là, ben voilà, la violence de l'école qu'on voulait essayer de mettre à distance envers ces élèves-là revenait à fond. Hein, il y en a qui disent que le savoir, c'est pas pour eux, la physique, c'est pas pour moi. Bon, bref, on s'était beaucoup démené et le découragement a commencé à pointer. J'ai un de mes collègues qui avait envie de jeter l'éponge, de démissionner. Et c'est vrai qu'on se demandait tout ça à quoi bon. Donc, moralité, de la bonne volonté, du travail en équipe, c'est indispensable, mais ça ne saurait suffire à relever le défi, celui qu'on s'était en tout cas imposé. Alors, deuxième étape, il y a un stage qui est arrivé dans notre vie d'enseignant. Un stage avec le GFEN, le groupe français d'éducation nouvelle, dont je vais pas mal parler. Non pas pour lui faire la publicité, mais bon, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez central pour nous. Donc dans le cadre de la formation continue, les stages du PAF, deux de mes collègues, donc c'était inscrit à un stage avec le GFEN qui s'appelait Apprendre, motivation, mise en activité, quelque chose de très banal. Ils sont venus très enthousiasmés par les ateliers de construction du savoir qu'ils avaient vécu. On est retourné les voir, on a participé à une ou deux journées de formation un samedi, on a discuté avec eux du GFEN, etc. Et en quelques mois, après les avoir un peu côtoyés, on avait la conviction qu'on avait trouvé enfin un début de piste sérieuse pour nous aider à avancer. Alors on s'est engagé à militer avec eux, on a monté un groupe science qui a produit des séquences, des ateliers, dont ceux qui étaient là l'année dernière ont vu un ersatz. Et donc, on a commencé, au fil des années, en 2-3 ans, à changer de manière assez radicale un petit peu nos pratiques de classe. Et à, donc, par exemple, à systématiser beaucoup plus le travail en groupe, la recherche sur les situations problèmes, d'essayer de toucher, d'aller chercher, de faire vivre dans la classe ce que j'appelle, moi, la saveur des savoirs. C'est un peu une autre façon de travailler la transposition didactique. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on lit dans le programme? C'est quoi les trucs importants, les trucs secondaires? Sur quoi on met l'accent, prendre beaucoup plus de temps pour faire réfléchir les élèves sur ce qu'on avait fait en classe, à quoi ça servait, quels étaient les objectifs, etc., etc., etc. Pour nous, c'était une vraie révolution, un vrai nouveau départ, et on avait l'impression non pas d'avoir enfin trouvé la bonne méthode et de faire les choses qui marchaient, mais enfin d'avoir des clés pour travailler, pour que les efforts qu'on faisait depuis déjà un bon moment, enfin, nous semblent utiles pour avancer. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, enfin, que notre énergie n'était pas dépensée en pure perte, mais était dépensée de manière utile. Alors on avait encore 10 ans devant nous de recherche et de choses à explorer pour être satisfait, mais au moins on avait l'impression d'avancer. Moralité. Dans notre histoire, tout ça n'aurait pas été possible sans la rencontre, donc entre du travail en équipe, de la volonté de faire réussir les élèves, et un héritage pédagogique, avec du recul que je trouve extrêmement puissant, simplement qu'on n'avait pas eu la chance de rencontrer. Et c'est ça une première chose qui m'intrigue. Comment est-ce que j'ai appris avec le GFEN après 10 ans de métier et qui a bouleversé ma vie professionnelle, comment ça se fait que j'ai attendu autant de temps pour le rencontrer? Alors que c'est, avec un peu de recul, c'est pas des choses si extraordinaires que ça. Enfin, pour moi, ça reste un mystère. Un vrai mystère. Alors, rapidement, troisième étape de mon récit. Une fois qu'on a commencé à faire ça, ou de 2-3 ans, j'ai un autre enthousiasme en classe, le plaisir retrouvé de faire la classe avec les élèves. Non pas que tous les élèves réussissaient comme par magie le jour au lendemain, c'est pas ça, mais en tout cas, voilà, on était contents de faire classe avec eux, ils étaient contents de venir, on s'ennuyait plus, et on n'avait pas l'impression d'en rabattre sur les exigences, etc. Donc ça se passait plutôt bien. Cet enthousiasme-là, chez des profs qui disent « Ah là là, j'ai fait un truc super », etc., ça fait bizarre dans une salle des profs, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et donc très rapidement, ça intrigue et il y en a qui veulent venir voir ce qui se passe. Et donc très rapidement, on n'a eu pas beaucoup de difficultés à autour de nous à inviter d'autres enseignants à s'intéresser à ça, à s'intéresser à ce que proposait le GFEN, à venir participer à des stages. Alors on s'est appuyé sur d'autres collègues de langue qui par ailleurs avaient fait à peu près le même chemin de leur côté avec le secteur langue du GFEN. Et tout ça, ça a débouché sur un stage de 3 jours organisé au lycée, un stage d'établissement. La DAFOP n'avait pas voulu répondre à notre demande, donc c'est sur fonds propres que le chef d'établissement avait payé une intervention à 1000 euros, 3 jours, un formateur du GFEN. Ça a été un très grand moment où une vingtaine d'enseignants on fait un stage à fond pendant 3 jours, sorti extrêmement enthousiaste et avec la ferme intention de continuer à travailler ensemble parce qu'on avait l'impression, et c'est ça un élément très important, c'est-à-dire que le vécu de ce stage, les ateliers que nous avions vécu ensemble, les analyses que nous avons partagées à ce moment-là, nous avions vraiment l'impression que pour la première fois, c'était un bagage commun une référence commune, un vécu commun, à partir desquels nous pourrions travailler ensemble et discuter en nous comprenant, en se comprenant. Jusqu'à présent, le travail en équipe, c'était des tentatives de communication avec un rendement extrêmement pauvre, parce que quand on parle de ce qu'on vit dans sa classe, c'est un récit édulcoré, et la communication est très pauvre, elle ne permet pas beaucoup avancer, tandis que là, on avait l'impression d'avoir une référence commune pour penser et réfléchir ensemble. Bon, il se trouve qu'il y avait une collègue qu'on avait invitée du collège voisin à participer à ce stage, et qui, pas plus tard qu'un mois après, tellement elle était enthousiaste, a réorganisé le même stage dans son collège, où elle a pareil trouvé une vingtaine d'enseignants qui sont ressortis très enthousiastes. Et on se retrouve là aujourd'hui avec, sur Vaux-en-Velin, une quarantaine d'enseignants qui ont ce vécu, qui ont cette envie de continuer, de se mettre en recherche, de réfléchir ensemble, parce que tout le monde a bien compris que ce qu'on a compris, qu'on voulait essayer de faire, c'est trop difficile à faire tout seul. Et ce chemin-là, il faut le faire ensemble, sinon on n'y arrive pas. Ce qui fait qu'au mois de février, là, mars, on va faire une nouvelle session sur Vaux-en-Velin de stage où on mélangera cette fois-ci le collège et le lycée. Et puis, où on va essayer d'inviter les autres établissements du secteur de Vaux pour commencer à avoir des têtes de pont dans les autres établissements pour élargir cette dynamique. Bon, voilà, j'ai raconté tout ça de manière un petit peu idyllique, hein, c'est en voulant mettre l'accent sur le fait que là, on est des enseignants qui, du coup, prenons en ce moment beaucoup de plaisir, c'est peut-être enfin, important de le dire, ça existe, à notre travail collectif pour avancer sur nos pratiques. On n'a pas la prétention d'être des modèles dans ce qu'on fait, mais par contre, on a la prétention de dire que voilà, cette satisfaction de, en réfléchissant à plusieurs à comment faire évoluer nos pratiques et d'arriver à le faire, c'est quelque chose qui est possible et qui est extrêmement satisfaisant professionnellement et important pour le moral. Bon, quelques enseignements. Alors, je l'ai dit au début, je conclue là-dessus. Ce chemin-là, ça aurait été un chemin qui aurait été impossible tout seul. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est parce que j'étais avec deux collègues de physique avec qui on s'appuyait vraiment mutuellement, qu'on a pu avancer comme ça, et j'aurais été strictement incapable de faire tout ce trajet tout seul. C'est une démarche qui a été volontariste, c'est-à-dire que ça n'est pas spontanément que les collègues se sont dit oh, « c'est bien, on va faire, on fait un stage et tout ça ». Ça a été porté, je dirais de manière militante, par un petit groupe d'enseignants. Voilà, ça ne se fait pas tout seul, il faut porter, il faut pousser le truc. Il y a une posture qui est maintenant, je dirais, délicate à trouver. C'est-à-dire que ce que je vous disais, l'enthousiasme des enseignants est communicatif. C'est-à-dire que si jamais, du jour au lendemain, je dis « Ah là, j'ai fait un truc dans ma classe, c'est incroyable, ça s'est super bien passé, le collègue veut m'écouter. » Mais si je viens voir le collègue en me disant « Je sais ce qu'il faut faire dans ma classe, je vais t'expliquer », le collègue, il va pas m'écouter. Et c'est vrai qu'au début, je parle cette fois-ci beaucoup de moi, dans mes premiers moments, depuis que j'ai rencontré un peu le GFN, il y a eu un enthousiasme naïf de quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau et qui attire. Et là, maintenant que ça va faire 3-4 ans que les choses sont digérées, sont plus intégrées, la posture n'est plus la même. Et là, je trouve beaucoup plus difficile de m'adresser à mes collègues pour leur faire partager un enthousiasme sans apparaître comme « moi, je sais, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ». Là aussi, à ce niveau-là, le fait d'être plusieurs à partager cette préoccupation, on se dit avec mes collègues de physique comment on fait pour s'adresser aux collègues. On réfléchit ensemble à cette question et ça nous aide, je pense, un peu mieux à trouver la bonne posture. Et dernière question, enfin dernier enseignement ou question justement, c'est sur l'implication de l'institution dans ce genre de dynamique. Alors nous, elle a été quasiment nulle, sinon le soutien de notre chef d'établissement qui a accepté de nous faire confiance quand on lui a dit que c'est ça qu'il nous fallait et de mettre la main à la poche. La DAFOP n'a pas voulu, disant qu'elle avait ses propres formateurs, c'était pas la peine de faire appel au GFEN. Et puis après, je crois que nos IPR ne sont pas au courant, que enfin, personne d'autre a été au courant. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, alors c'est vrai que, bon, a priori, pour l'histoire personnelle, cet aspect autogestionnaire me plaît bien, mais je vois bien que c'est... J'ai l'impression forcément de me priver de ressources et de leviers qui permettraient de faire beaucoup de choses avec beaucoup moins d'efforts. Alors, pour bien faire comprendre, il se trouve que l'année dernière, j'étais à mi-temps, et j'ai milité sur mon deuxième mi-temps pour le GFEN à faire des choses qui relèvent de mon travail. Et c'est ma compagne qui me dit « Mais attends, ça va, tu vas continuer pendant combien de temps de bosser à plein temps avec la moitié de ton service qui n'est pas payé ?» Ou tu fais des choses pour l'institution, objectivement, c'est clair. Et je dis « Bah, c'est la seule solution pour faire ces choses. » Alors peut-être que je me trompe, peut-être que toute cette énergie qui a été investie, on aurait pu le faire avec le soutien de l'institution et sans doute qu'on se serait moins épuisé. Ou peut-être pas. Peut-être parce que ça vient d'entre nous, d'entre pairs, et que ce serait venu d'en haut, ça aurait été beaucoup moins bien accepté. Peut-être que cette dynamique n'aurait pas existé. Je n'en sais rien, je ne veux pas avoir d'avis là-dessus. Éventuellement, je veux bien avoir votre avis. Bon, voilà, je vais arrêter pour l'instant. Éventuellement, il y a peut-être d'autres choses que je rajouterai s'il y a lieu dans la discussion.